l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence à foi 100.2.
Et à Lourdes sur le 90.6. Bonjour à toutes et à tous. Comme tous les jours, du lundi au vendredi, c'est le Présence Midi depuis les studios de Lourdes, où le ciel est légèrement voilé, mais où le soleil recommence à faire son apparition, amenant avec lui une hausse des températures. Il va faire chaud encore aujourd'hui, un petit peu moins que les jours précédents, mais il est bien conseillé de rester au frais, de bien s'hydrater. Encore, malgré les petites gouttes qui sont tombées hier. Le programme de cette heure, dans quelques instants, une rediffusion de la chronique verte de Benoît Guillard. Il nous parlera de Benjamin Boissy, qui est administrateur de l'ADEAR65, l'Association pour le développement et l'emploi agricole et rural. Nous aurons le coup de cœur du frère Martin de l'abbaye de Tournaille dans les Hautes-Pyrénées. Il nous parlera d'un livre de Mathieu, La parole pleine à craquer. Et nous aurons les informations, bien sûr. Et puis la chronique solidaire de Anne Deslois, qui nous proposera la seconde partie consacrée au mouvement Pax Christi. Et enfin, pour terminer, eh bien, nous sillonnerons, comme tous les vendredis, les sentiers pyrénéens. Aujourd'hui, en compagnie de Gustave Flaubert, qui s'est rendu dans notre belle région. Si, si. Allez, on débute ce programme donc avec les titres des informations de ce vendredi.
La canicule commence enfin à s'essouffler. Selon les prévisions Météo France, l'ensemble des départements de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot et du Tarn-et-Garonne devraient repasser en alerte orange d'ici la fin de journée. Les températures de ce week-end devraient-elles aussi retrouver leur valeur de saison habituelle. Les massifs forestiers du Gers sont officiellement fermés jusqu'à lundi prochain. Cette décision, prise en lien avec l'Office national des forêts, a pour but de faire face à un risque d'incendie particulièrement élevé lié aux fortes chaleurs et aux conditions météorologiques actuelles. C'est officiel, tous les feux d'artifice sont interdits dans le Tarn-et-Garonne jusqu'à nouvel ordre. Cette décision portée par la préfecture a été appuyée par le risque important de feux de forêt. En cas d'incendie provoqué par le non-respect du décret, l'auteur des faits encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Nouvelle étape dans le gigantesque chantier de la ligne de métro C. Le tunnelier Lisange-Albert est enfin arrivé à la future station Blagnac après avoir creusé près de 2 km depuis la station Seine-Denis. Actuellement en maintenance, il reprendra prochainement son avancée en direction du Puy-la-Porte. Le comité mosellan de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte est à la recherche de nouvelles familles d'accueil. L'objectif de l'antenne lotoise est d'accompagner des hommes et des femmes ayant connu des périodes de dépendance. Le réseau d'accueil en famille propose un service d'accompagnement assuré par du personnel de santé agréé. Les séjours sont quant à eux temporaires et fondés sur la libre adhésion. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'association CNSEA. Enfin, le projet du futur EHPAD à Tarascon-sur-Ariège dans les Pyrénées est en cours de construction. Cette nouvelle structure de 120 lits sera située à proximité du parc de la Préhistoire. Elle devrait voir le jour d'ici 2028.
Et retour de l'information sur Présence à 12h30.
Radio Présence à Ax-les-Thermes, 92.7.
La chronique verte de Benoît Guillard nous propose aujourd'hui de découvrir l'Association pour le développement et l'emploi agricole et rural, l'ADEAR65, une association qui, dans le contexte actuel, est utile pour le renouvellement des générations agricoles. Voici sa chronique.
La chronique verte, Benoît Guillard.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de me rendre dans les baronnies, plus exactement à Bagnos, ou tout près de Bagnos, en tout cas sur la commune de Bagnos. Ça faisait un petit moment que je voulais aller interviewer ce qui se vivait, ce qui se jouait sur la ferme de la Coum. Et puis en même temps, je suis interpellé aussi par les acteurs de la DR. Je suis sensible. Et donc je voulais un petit peu faire une chronique autour de la situation de la DR, vous présenter aussi ce qu'est la DR, qu'est-ce qu'ils réalisent sur le territoire, et puis aussi leurs besoins actuels. Donc je suis avec Benjamin. Benjamin qui va peut-être tout simplement se présenter et puis nous présenter l'ADR 65. Bonjour Benjamin.
Bonjour, donc moi c'est Benjamin Boissy, je suis installé comme paysan sur la ferme de la Coum depuis 2019. J'y suis depuis 2017 mais je suis officiellement installé depuis 2019. Je suis maraîcher sur une ferme donc avec 4 autres personnes. On a un hectare et demi de maraîchage, un petit troupeau de vaches allaitantes et un troupeau de brebis laitières. On transforme tout, que ce soit les produits laitiers ou la viande, ici et avec les outils du département. Je suis paysan et à côté de ça, je suis aussi administrateur de l'Association pour le développement de l'emploi agricole et rural, donc ADAR, des Hautes-Pyrénées. Qui a été créé dans les années 2000 dans le département et qui a comme mission aujourd'hui et depuis toutes ces années de installer, transmettre, accompagner les transmissions et proposer des formations pour les agriculteurs et les agricultrices du territoire.
Donc son rôle, c'est d'aider les porteurs de projets à mûrir un petit peu leurs projets jusqu'à ce qu'ils soient viables et vivables, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. On les accompagne donc à différents niveaux de la. On propose différents types d'accompagnement. Donc on a par exemple des stages collectifs dans un premier temps pour savoir où est-ce qu'en sont les personnes. Voilà. Et puis si le projet est déjà un peu plus mûr, on propose deux types d'accompagnement. Le premier accompagnement qui s'appelle s'installer paysan. Donc là où on commence à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et puis derrière, si on sent que c'est vraiment mûr, il y a un deuxième accompagnement qui s'appelle chiffrer son projet. Et là, on rentre dans l'aspect économique en fait du projet, voir la viabilité du projet. Voilà, c'est ça.
Alors effectivement, on peut dire que dans le contexte actuel, en particulier où le renouvellement des générations agricoles est pas si simple que ça, on le voit dans les éléments statistiques, et ça reste un enjeu majeur. Ces accompagnements sont bien sûr essentiels pour maintenir des fermes à la fois vivantes et puis des productions locales. Bon, vous traversez aujourd'hui une période financière difficile. Peut-être nous dire deux mots sur ce que vous vivez en ce moment.
Alors il y a plusieurs raisons donc premièrement il y a une diminution des subventions publiques. En fait on est un organisme qui est avec comme la chambre d'agriculture, en fait on est agréé pour faire ce qu'on fait, c'est une mission de service public si on peut dire ainsi, et du coup les subventions diminuent. On fait aussi face à la diminution des aides à la formation, donc avec le fonds Vivea, voilà, qui diminue fortement. Donc ça c'est quelque chose qui nous impacte énormément. Il y a une diminution de la prise en charge, mais il y a surtout une diminution du nombre de formations. C'est beaucoup plus ciblé, beaucoup plus précis. Il faut toutes les formations ne passent plus aujourd'hui. On a déjà essuyé plusieurs refus, notamment l'année dernière, qui nous ont mis vraiment dans le rouge. On avait prévu 3 formations en fin d'année et elles ont été annulées à peu près du jour au lendemain, si on peut dire. Et ça nous a beaucoup coûté. Et là, on en a encore une aussi qui a été annulée en début d'année.
Alors ces aides Vivea, entre autres et en particulier, qui sont importantes effectivement dans le cadre de l'accompagnement des porteurs de projets. Donc elles sont en forte diminution, pas que pour vous, pour tous les acteurs de l'installation, j'imagine.
En fait, c'est pas vraiment des aides Vivea. Ce qu'il faut savoir, le fonds de Vivea, c'est des cotisations que nous on paye en fait en tant qu'exploitant agricole. Et voilà, c'est ça. C'est de la formation en fait. C'est de la mutualisation pour avoir un fonds de formation pour les paysans, les paysannes, pour continuer de se former en fait, tout au cours de leur carrière. C'est ça, en fait. Là, les formations, elles touchent pas les porteurs et les porteuses de projets. Elles touchent les personnes, en fait, les personnes qui sont déjà installées ou, par exemple, comme en ce moment, on peut, à partir de demain, il y a une formation pour la transmission qui commence. Là, clairement, c'est des cédants et des futurs cédants et futures cédantes qui vont participer à cette formation. Et eux, ils vont utiliser leur fonds Vivea. Mais la transmission est un sujet que Vivea a gardé en priorité. Donc sur celle-là, on sera financé par Vivea. Voilà.
Alors vous m'expliquez, quand on s'est croisé au salon, que comme partout malheureusement, on s'aperçoit qu'il y a quand même un nombre de personnes accompagnées inférieur. En ce moment, il y a une petite baisse de la motivation et des envies d'aller dans le monde de l'agriculture, dans le monde de l'agriculture paysanne, mais aussi dans le monde de l'agriculture en général.
Oui, c'est un constat en tout cas qu'on fait, que la Chambre d'agriculture aussi fait. En tant que structure d'accompagnement, on se pose plein de questions. Est-ce que c'est qu'il y a moins de personnes? Est-ce qu'ils utilisent d'autres biais? Il y a aussi des structures privées qui sont en train de se monter, comme FEV, comme Eloa, qui en fait amènent une concurrence dans ce champ de l'accompagnement à l'installation. Donc aujourd'hui, on peut aussi sur Internet trouver des formations et en trois semaines devenir maraîcher. Moi, je me permets de passer à la radio pour faire une petite alerte à ce niveau-là. En fait, c'est pas en trois semaines qu'on apprendra à être maraîcher. Je comprends qu'il y a un sentiment d'urgence de la part des plus jeunes, mais si je peux donner un petit conseil, en fait, ne vous précipitez pas, parce que ça prend du temps, en fait, pour apprendre ce métier, pour comprendre vraiment. Même moi, au bout de 10 ans, en fait, j'ai vraiment l'impression de comprendre ce que je fais. Du coup, prenez votre temps, ne vous précipitez pas, prenez du temps dans votre parcours à l'installation, allez dans des structures comme la Chambre d'agriculture, comme la DEAR, qui propose un vrai accompagnement.
Alors tous ces éléments décrits, bien sûr, fragilisent votre modèle économique, mais ils ne remettent pas en cause l'utilité, on l'a vu, hein, de cet accompagnement, et ni la pertinence d'ailleurs dans les actions et dans l'agriculture qu'on développe sur ce territoire, donc ça c'est important. Et donc aujourd'hui, suite à ces situations, vous agissez déjà, vous faites déjà des actions par rapport à tout ça.
Par exemple, ce que j'ai dit il y a quelques secondes, qu'on proposait une formation à la transmission pour les cédants et les cédantes. On accompagne toutes les personnes qui nous contactent pour que ce soit dans un premier stade, même avant l'émergence du projet, et puis après derrière sur l'émergence. On propose des formations. Il y aura bientôt aussi une formation sur la traction animale Asine, là, qui va se passer autour de Lourdes, à Ségus plus précisément. Donc oui, on est présent. On était présent au Salon de l'agriculture aussi pour se visibiliser, être en contact avec le monde agricole et paysan. Malgré nos difficultés, on a en fait quand même une grande détermination pour que l'ADR continue d'exister.
Voilà. Alors, au point de cette interview, bon, pour nos auditeurs, simplement, je crois que vous avez déménagé, hein. Vous êtes à Tarbes maintenant, donc peut-être préciser le contact si des jeunes se sentaient investis, ou des moins jeunes d'ailleurs, des gens qui voudraient changer de vie, changer de monde et s'informer. Où est-ce qu'on peut vous voir et comment on peut vous contacter?
Alors, vous pouvez donc nous voir à Tarbes, à la zone de la Garounère. On a nos bureaux là-bas, je crois que c'est le 9 rue de la Garounère, quelque chose comme ça.
Oui, chers auditeurs, je leur ai expliqué, je ne l'ai pas fait dans le cadre de cette interview. Je suis à la ferme de la Coume, donc je suis en plein cœur des baronnies. Et donc, inévitablement, je suis dans la nature et on n'a pas les éléments sous le coude comme ça. Voilà. Parlons un peu des perspectives, du coup, Benjamin. Malgré ces difficultés, quelles sont les perspectives aujourd'hui de l'ADR 65?
Alors, les perspectives, elles sont assez claires. Donc, continue notre mission. Donc là, on va continuer de proposer encore cette année les dispositifs d'accompagnement dont j'ai parlé, s'installer paysan, et chiffrer son projet si des porteurs de projets se manifestent. On a donc cette formation sur la transmission qui va commencer demain. Et après, dans nos perspectives, on travaille sur un partenariat avec une fondation qui s'appelle Clamor Terrae, qui travaille sur la biodiversité et qui a envie d'intégrer dans son champ d'action en fait l'agriculture et se rapprocher un peu de structures comme la nôtre. Pour du coup, cette structure pourrait nous soutenir à terme. Donc, ce sera pas en 2026, peut-être en 2027, sur notamment les actions de transmission. Voilà, donc là, ça, c'est une des perspectives. Et on va proposer aussi plus de formations cette année. Donc là, comme la formation de traction animale, Asine. Et on a créé des commissions au sein de la DAR avec des adhérents et des adhérentes, paysans la plupart du temps. Donc une commission installation, une commission transmission, une commission formation. Donc au cours de l'année, il y aura d'autres propositions. Et après, dans les perspectives à plus court terme, donc du fait de notre situation un peu complexe, on a décidé de lancer une cagnotte de soutien, de dons participatif, quoi, pour nous aider à traverser cette phase qui est pour nous, je pense, vraiment une phase. On a besoin d'un soutien. Il sera ponctuel, je l'espère.
Oui, en fait, j'ai envie de reprendre un petit peu cet appel, ce soutien qu'on peut vous faire, hein, puisque l'idée, c'est quand même de vous aider à passer ce moment difficile, hein, dans le contexte. Et pour autant, l'utilité et puis le travail que vous menez est très important. Moi, j'entendais la présidente de la région parler de souveraineté alimentaire, mais pour qu'il y ait une souveraineté alimentaire, il faut aussi maintenir les paysans, hein, inévitablement. Et donc, pour ça, il faut les accompagner, les former et les mettre, entre guillemets, dans un contexte viable et vivable pour eux, quoi, dans ces éléments. C'est ce que vous faites. Et puis également, pour maintenir le territoire là, dans les baronnies, hein, plus qu'ailleurs peut-être, il faut du monde, il faut des mains, il faut des têtes, il faut des gens qui aiment ce pays et qui contribuent totalement à le maintien de ce pays, donc c'est important. Et donc concrètement, comment on peut vous soutenir justement financièrement? Donc c'est un appel à soutien. Donc si nos auditeurs sont intéressés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Dites-nous.
Alors on a lancé une cagnotte sur un site qui s'appelle Hello Asso, et il suffit du coup de alors là j'ai pas le lien à vous proposer directement, mais en fait il suffit juste de rechercher ADR des Hautes-Pyrénées Hello Asso et de le taper sur le clavier de l'ordinateur sur internet, et vous trouverez la campagne de don. C'est assez facile, vous pouvez les dons commencent à partir de 10 euros et jusqu'à plus. Voilà, on est en train d'essayer de faire en sorte que, parce que pour l'instant la DAR n'est pas reconnue d'intérêt général, donc on peut pas défiscaliser les dons. Voilà, mais on est en train de travailler dessus pour que ce soit le cas.
D'accord. Alors Hello Asso, je précise pour les auditeurs, c'est HELLOASSO, et quand vous êtes dans Hello Asso, sur la barre de recherche, vous tapez tout simplement ADR des Hautes-Pyrénées et vous tomberez tout simplement sur la proposition qui vous est faite de participer, de contribuer à passer ce moment difficile. En quelques mots, peut-être pour terminer sur ce sujet, en termes de développement et d'installation, de paysans qui s'installent, aujourd'hui, pour avoir une idée, c'est combien de paysans passent par l'ADR chaque année pour s'installer?
Ça dépend des années. Alors, on peut pas dire qu'il y a... On a une centaine de personnes chaque année qui passe parmi nous. Après, il n'y en a pas une centaine qui s'installe. On est plutôt entre 10 et 20, plutôt dans ces eaux-là. Et en fait, ça, c'était, on parle de 2024, mais 2025, on n'a pas encore les chiffres. Mais ça n'a pas du tout été à la hauteur de nos espérances. On a typiquement les deux formations qu'on fait, donc s'installer paysan et chiffrer son projet, ont été annulées par manque de... Donc on a fait plus d'accompagnement individuel que d'accompagnement collectif. Voilà. Donc, voilà.
Ce qu'on peut dire peut-être aussi, c'est dans la réflexion que vous portez autour de l'installation, il y a sans doute tout un travail sur le collectif. S'installer seul, et en particulier dans ce territoire et en maraîchage, c'est peut-être difficile aujourd'hui. Même si ce n'est pas l'aspiration générale des candidats, mais travailler ensemble, c'est peut-être mieux. C'est peut-être plus simple en termes de contribution, temps de travail, disponibilité, présence dans la famille, etc. Enfin, vous êtes un exemple, mais...
Je pense que pour ça, je pourrais pas. Moi, je sais que c'est le modèle qui me convient. Je suis sur une ferme où on est plusieurs et ça a plein d'avantages. Ça amène aussi beaucoup de complexité. À la DART, on va pas privilégier les accompagnements individuels. On va privilégier les accompagnements collectifs pour qu'il y ait confrontation, mais voilà, que les gens s'y se confrontent, stimulation, confrontation, qui compare en fait. Ah bah ouais, moi c'est plutôt ça que j'ai envie de faire. Donc c'est parce que c'est vraiment important qu'il y ait du dialogue en fait entre nous et qu'on se sente pas seul dans un projet qui est quand même assez vaste, souvent même une toute petite. En fait, on se fait peut-être une idée des toutes petites fermes, mais c'est quand même des sacrées entreprises, oui, dans lesquelles se lancent les personnes. De vivre son projet d'installation avec d'autres, c'est, je pense, une grande force pour la suite.
En tout cas, merci Benjamin. Moi, j'incite nos auditeurs, en tout cas, à s'intéresser à cette question. Derrière chaque installation agricole réussie, on peut dire qu'il y a souvent un accompagnement collectif. Et si on perd cette capacité à accompagnement collectif, bah, on perdra potentiellement des femmes et des hommes, hein, des agricultrices et des agriculteurs, mais on a besoin de ces femmes et ces hommes, d'autant plus qu'on veut avoir une certaine souveraineté alimentaire dans ce territoire. Merci infiniment, Benjamin. J'espère que cet appel sera relayé en tout état de cause. Et puis, chers auditeurs, je mettrai sur le site Radio Présence Lourdes les références. En tout cas, merci et bonne journée.
Bonne journée, merci beaucoup.
Et merci à Benoît Guillard pour cette chronique. On se retrouve dans quelques instants pour le coup de cœur en librairie du frère Martin de l'abbaye Tournaille des Hautes-Pyrénées. Dancing mouse down behind the hired house. You don't need no food to eat. All you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking wine, racing through those traffic.
À Salise du Salat, 94.1.
Direction Tournaille, dans les Hautes-Pyrénées, à la rencontre du frère Martin qui nous propose son coup de cœur en librairie. Il est au micro de Anne-Rose Jankovic.
Bonjour frère Martin.
Bonjour Anne-Rose et bonjour chers auditeurs.
On vous retrouve pour la chronique littéraire. Et voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir au micro de Radio Présence, vous qui êtes moine à l'abbaye Notre-Dame de Tournaille. Et vous avez pris l'habitude depuis quelques semaines de nous donner des bons conseils de lecture, puisque dans cette abbaye de Tournaille, vous êtes le frère libraire notamment. Alors aujourd'hui, vous avez choisi de nous parler d'un ouvrage qui va nous faire un petit peu plonger dans les évangiles. C'est un ouvrage de frère David, qui est moine à l'abbaye d'Ancalcate. Peut-être que c'est bien d'abord de rappeler qui est frère David.
Oui, frère David est un moine de l'abbaye d'Ancalcate. Il a écrit plusieurs ouvrages, il a été père abbé, il a fait des études littéraires et donc il a participé aussi surtout à la traduction de la Bible liturgique, à la traduction du Missel romain. Et donc, il a écrit un commentaire de l'évangile de Marc, et maintenant, il a commencé le commentaire de l'évangile de Matthieu, mais le premier tome de ce livre donc, va du début de l'évangile jusqu'au discours sur la montagne, à la fin du chapitre 7 de saint Matthieu. Et en cette période de début juin, nous avons commencé dans la 10e semaine du temps ordinaire la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, et donc c'était intéressant peut-être de proposer à nos auditeurs d'approfondir ce qu'ils peuvent méditer par eux-mêmes ou qu'ils entendent pendant la liturgie.
Alors qu'est-ce qu'on va apprendre justement à travers cet ouvrage? Comment cet ouvrage va nous aider à aller plus loin dans l'évangile en fait, à comprendre ce qu'il y a un petit peu peut-être derrière les mots?
Alors ce qui est intéressant, c'est que frère David propose un éclairage qui peut-être j'aimerais qualifier de hors des sentiers battus, quoi. Il va nous amener à entendre le texte d'une autre façon. Mais peut-être pour nos auditeurs, d'abord, ce qui me semble important, c'est que dans le livre, il y a un petit passage d'évangile qui est à méditer. Et donc ce que je vous invite d'abord, c'est vous de lire ce passage, de le méditer un peu par vous-même, voir qu'est-ce qui fait sens pour vous, qu'est-ce qui vous touche. Et ensuite, de lire le commentaire du frère David, parce qu'il va vous entraîner avec sa méditation à lui. Quoi.
C'est une sorte de lectio divina.
Tout à fait, c'est une introduction à la lectio divina.
Est-ce que ça, c'est pas un petit peu, peut-être, exigeant ou adapté à un public particulier qui est déjà averti? Est-ce qu'on peut vraiment se plonger comme ça dans les évangiles, dans cet évangile en particulier?
Au contraire, justement, c'est pour ça que je propose le livre de frère David, c'est que même si on n'est pas très habitué, et bien justement, son explication nous permet d'entrer dans le texte biblique, quoi. Et ce qu'il dit est vraiment compréhensible, même si on n'a pas fait des études de théologie, ça nous permet vraiment d'éclairer le texte et de lui donner une saveur spirituelle.
Alors, est-ce que vous pouvez nous donner peut-être des points forts, des mots clés de l'évangile de Matthieu, mais aussi de cet ouvrage du frère David, des petits mots clés qui vont nous permettre vraiment de savoir qu'est-ce qui nous attend dans cet ouvrage.
Ce qui me paraît intéressant, c'est ce que j'ai déjà évoqué, c'est un autre regard, quoi. Mmh. Vous voyez déjà le grand texte, l'ouverture de l'évangile de Matthieu, qui est le premier évangile dans nos Bibles, commence par une longue généalogie. Et ce texte pourrait nous paraître un peu difficile. Et frère David, voilà, nous montre que le projet de cet auteur, qui Matthieu, nous présente une genèse, quelque chose qui nous renvoie au premier livre de la Bible, mais qui est avec Jésus un nouveau commencement. Et comment entendre ce qu'on peut connaître déjà de la Bible, mais le regarder d'une façon nouvelle. Et ce qui peut nous paraître pas évident dans cette généalogie, nous renvoie aussi à nos vies, où des fois dans nos vies, il y a des choses qu'on comprend pas très bien, il y a entre les familles et tout, mais des fois il y a des événements qui font que les choses ne vont pas tout à fait tout droit. Et donc voilà, on est invité à regarder que le Christ vient dans quelque chose qui est à la fois complètement dans la tradition et qui amène vers quelque chose de complètement nouveau.
L'idée, c'est que nous-mêmes, en lisant cet évangile, en faisant cette lectio divina, on ait l'impression, ou même pas que l'impression, qu'on puisse se sentir membre de cette... Enfin, s'inscrire dans cette genèse, en fait.
Ah, tout à fait. Et c'est vraiment, en plus, le but de l'évangile. Voilà, c'est de nous amener, nous, à marcher à la suite de Jésus, qui que nous soyons, quoi.
Dans l'évangile de Matthieu, il y a aussi ce passage. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Est-ce qu'on peut parler de ce passage-là?
Oui, alors là, je trouve que là, le commentaire de frère David est intéressant, parce qu'il souligne que le sel et la lumière ne transforment pas, ne changent pas. On reconnaît exactement un objet s'il est illuminé ou s'il est dans la ténèbre, et un mets de cuisine qui soit salé ou pas salé, quand vous le regardez, il a exactement le même aspect. Et donc c'est intéressant, voilà, de regarder que ce qui a priori ne change pas peut être quand même transformé par la lumière, ou pour un aliment transformé par le sel qui va lui donner du goût et une saveur, quoi. Et chacun est invité, voilà, peut-être à se laisser regarder justement par le Christ, par la lumière de Dieu qui peut venir transformer nos vies. Et des fois, sans grand discours, notre présence cachée en essayant de vivre des valeurs évangéliques peut interroger les personnes et les introduire à une relation avec le Seigneur.
C'est en Matthieu aussi que nous trouvons les béatitudes.
Tout à fait. Et là, ce qui est intéressant sur les béatitudes, c'est que de la première qui commence par les affligés, en fait, des choses qui nous concernent un peu personnellement, il met un zoom sur des situations qui concernent les relations entre les hommes, et pour montrer que Jésus vient à notre rencontre d'une petite situation particulière ou d'une situation qui concerne ce qu'on dirait aujourd'hui l'équilibre dans une communauté, les violences, les guerres et tout ça. Voilà. Et si, même au cœur de situations difficiles, toujours la lumière du Christ vient nous rejoindre.
Alors moi j'ai une petite question qui s'adresse vraiment à vous, frère Martin, au moine que vous êtes. Les évangiles, vous avez l'habitude de les lire, de les méditer. Alors en quoi est-ce nécessaire de lire un ouvrage comme celui du frère David quand on est moine et que de toute façon on a l'habitude du vocabulaire de la Bible et des évangiles, et que pour vous c'est facile de comprendre tout ça?
C'est facile de le comprendre, mais ce qui est intéressant, c'est que chacun a sa personnalité. Et donc, en fait, la lecture qu'il en fait et les idées qui viennent en lui sont personnelles. Et donc, c'est intéressant d'entendre et de lire, même pour quelqu'un qui a l'habitude de prier et d'avoir une lecture spirituelle, d'écouter l'éclairage que propose frère David. On pourrait le proposer, les mêmes textes, à d'autres moines, et bien, il y aurait chacun une touche personnelle.
Qu'est-ce qui vous a touché, vous, personnellement, dans ce texte? Est-ce que vous avez découvert quelque chose que vous n'aviez pas vu ou ressenti jusqu'à présent en lisant Matthieu?
Ah oui, tout à fait. J'ai choisi et je lis quelquefois les commentaires du frère David parce que il a une vision qui nous amène dans un inattendu, quoi. Déjà, l'évangile nous amène dans de l'inattendu, mais il a vraiment l'art de nous rejoindre dans nos vies personnelles et de nous amener sur un chemin inattendu. C'est ça qui est intéressant. Et qui que nous soyons, vraiment, allez-y, vous pouvez, même si c'est la première fois que vous lisez à la limite l'évangile, vous avez le texte avec sa traduction et vous avez le commentaire qu'il en donne, et ça peut vraiment aider à rentrer dans une expérience de lecture méditée de la parole de Dieu.
Ça s'appelle Matthieu, la parole pleine à craquer, du frère David Marc Damonville, qui est un frère donc moine de l'abbaye d'Encalcate. C'est paru chez dans quelle maison d'édition?
C'est aux éditions du Cerf, et le livre coûte 22 euros.
Voilà, ça reste un prix abordable, et c'est évidemment un livre que l'on peut trouver dans votre librairie à l'abbaye de Tournai.
Tout à fait, et pas particulièrement aussi à l'abbaye d'Encalcate dans le Tarn, et on peut peut-être aussi donner un petit coup de pouce à la jeune librairie catholique qui est chez les personnes de la région toulousaine au couvent des Carmes, avenue Jean Rieux à Toulouse.
Matthieu, la parole pleine à craquer. Merci beaucoup frère Martin pour cette présentation. On vous retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation avec un nouvel ouvrage.
Merci à vous, bonne lecture à vous.
Et à 12h32, on écoute Zaz de Couleur Vive avant de retrouver le journal de la mi-journée.
Qui dit ce noir ou blanc alors? C'est le nom ou la peau qui déciderait du rang? Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Tous ces genoux si lourds que certains mettent à terre. Un seul crime à ce jour, être né de leur mère. Je ne peux plus respirer sous le poids de ces bêtises, même sang, même lune, quoi qu'ils disent. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. J'en viens, je l'avoue, à envier les oiseaux, de n'être que témoin de nos actes inhumains, et de pouvoir voler vers d'autres lendemains. Je pense à vous souvent, vous les décevants, qui divisent le tout. Je pense à vous souvent, qui piétinez le nom, je suis déçu, vraiment. Alors je prie le vent, qu'il vous ramène à nous. Alors je prie le vent, ça change tout. Moi je veux vivre, rire libre, da 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 da. Je suis une femme de couleur vive et ça veut dire tout ça. Moi je veux vivre, rire libre, c'est vrai, de monter au créneau, alors je chante un peu.
Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur les fréquences de Présence. Il est 12h, passé de 35 minutes. Nous sommes en plein cœur de ce Présence Midi. À suivre dans quelques instants la chronique solidaire de Anne Deslois qui nous proposera une seconde partie en se consacrer au mouvement Pax Christi qui est situé à Lourdes. Et puis nous aurons également Catherine Albrecht qui nous fera balader dans nos belles Pyrénées en compagnie de Gustave Flaubert. Le programme se poursuit avec immédiatement les informations régionales.
Bonjour à toutes et à tous, la canicule commence enfin à s'essouffler. Selon les prévisions Météo France, l'ensemble des départements de la Haute-Garonne, du Gers, du Lot et du Tarn-et-Garonne devraient repasser en alerte orange d'ici la fin de journée. Les températures de ce week-end devraient elles aussi retrouver leur valeur de saison habituelle. Les massifs forestiers du Gers sont officiellement fermés jusqu'à lundi prochain. Face à un risque d'incendie particulièrement élevé lié aux fortes chaleurs et aux conditions météorologiques actuelles, le conseil départemental a décidé de fermer l'accès à l'ensemble de ces massifs forestiers. Cette décision, prise en lien avec l'Office national des forêts et conformément à l'arrêté préfectoral en vigueur, vise à protéger les personnes, les espaces naturels et à prévenir tout départ de feu. Ces dernières heures, la vigilance orage a également été lancée. Les impacts de foudre constituent un facteur supplémentaire de déclenchement d'incendies dans des massifs fortement asséchés par la canicule. C'est officiel, tous les feux d'artifice sont interdits dans le Tarn-et-Garonne jusqu'à nouvel ordre. Ce mercredi, le préfet a déposé un décret dans lequel l'utilisation d'articles pyrotechniques et de feux festifs sur le territoire est strictement interdite en raison des fortes chaleurs observées actuellement sur le département. Cette décision a été appuyée par le risque important de feux de forêt. En effet, en cas d'incendie provoqué par le non-respect du décret, l'auteur des faits encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Nouvelle étape dans le gigantesque chantier de la ligne de métro C. Le tunnelier Lysin-Jalbert est enfin arrivé à la future station Blagnac après avoir creusé près de 2 km depuis la station Sept-Deniers. Après une phase de maintenance, il reprendra prochainement son avancée en direction de Puy-la-Porte, portant son parcours total à 4 km. Une avancée symbolique pour cette station stratégique qui reliera à terme le métro, le tramway, les bus et l'aéroport Toulouse-Blagnac. Le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte est à la recherche de nouvelles familles d'accueil. Depuis presque 50 ans, l'antenne lotoise accompagne des hommes et des femmes ayant connu des périodes de dépendance. Après une stabilisation médicale, ces personnes sont invitées à retrouver un rythme de vie. Pour ce faire, l'association met en relation des familles bénévoles de tout type de profil pour permettre à ces personnes de reprendre confiance en eux. Le réseau d'accueil en famille propose un service d'accompagnement assuré par du personnel de santé agréé. Les séjours sont quant à eux temporaires et fondés sur la libre adhésion. Si vous êtes intéressé par ce dispositif, vous pouvez vous rendre directement sur le site de l'association CMSEA. Enfin, le projet du futur EHPAD à Tarascon-sur-Ariège dans les Pyrénées est en cours de construction. Cette nouvelle structure de 120 lits sera située à proximité du parc de la Préhistoire. En parallèle, l'ancien site en centre-ville sera transformé en maison d'hébergement temporaire pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap et les enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Le projet représente un investissement total de plus de 20 millions d'euros et devrait voir le jour d'ici 2028.
La chronique solidaire avec les acteurs solidaires de nos territoires.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Laurence.
Bonjour Anne.
Oui, si je dis directement bonjour Laurence, c'est parce que nous vous avons déjà reçu la semaine dernière.
Oui.
Vous êtes chargée de mission de Pax Christi à Lourdes. Et donc, la semaine dernière, nous avons vu plus, d'une façon générale, l'historique et puis la mission de Pax Christi. Et maintenant, une émission qui va plus nous guider ici à Lourdes pour entendre l'action de Pax Christi à la fois au sein du sanctuaire et d'une façon générale dans le diocèse, dans les paroisses. Rappelons d'ailleurs que cette année 2026, Pax Christi fête ses 80 ans.
Oui, exactement. On a déjà fêté les 80 ans de Pax Christi l'an dernier au...
Un peu en avance.
Enfin, il y a deux actions. Donc l'an dernier, on a eu le bonheur de recevoir des personnes un peu du monde entier qui sont venues témoigner et commémorer justement la création du mouvement, les 80 ans. Donc on a organisé un pèlerinage à Lourdes puisque Lourdes est le point d'ancrage historique de Pax Christi.
Alors c'est pour ça que Pax Christi, ou plutôt on va dire Lourdes, a une place particulière dans l'action des activités de Pax Christi.
Exactement.
Vous nous rappelez pourquoi c'est important, Lourdes, comme lieu pour Pax Christi?
Ben déjà, en quelques mots, ben parce qu'on doit Pax Christi notamment à Monseigneur Théas, qui était alors évêque de Montauban, mais qui a été évêque de Tarbes-Lourdes pendant 23 ans, de 1947 à 70, et qui est à l'initiative, avec Marthe Dortel-Claudeau, qui était une professeure de français, à l'initiative du mouvement pour la paix.
Donc en 1948.
40, oui, ça a commencé directement à l'après-guerre, 1944-45, pour devenir Pax Christi un peu plus tard.
Voilà. Alors, au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes, Pax Christi est présent depuis quelques années dans ce qu'on appelle le parvis Sainte-Bernadette. Donc, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore, c'est carrément dans le domaine du sanctuaire, l'autre côté du Gave, quand on est du côté de la basilique du Rosaire, vous avez un lieu d'accueil, d'animation, de rencontre des pèlerins.
Alors, c'est au parvis Sainte-Bernadette, c'est-à-dire les espaces en bas de l'hémicycle, au cœur du sanctuaire et face à la grotte, de l'autre côté du pont.
Alors, c'est ouvert à qui, ce lieu du parvis Sainte-Bernadette?
C'est ouvert absolument à tout le monde. Au départ, pour accueillir le public passant, sur le constat qu'il y a de plus en plus de personnes qui viennent au sanctuaire en pèlerin ou en simple touriste et de leur propre initiative. Donc, des individuels, des familles, mais aussi des personnes qui sont détachées de leur pèlerinage. En fait, on accueille tout le monde.
Et ça veut dire que les gens viennent vous rencontrer pour discuter avec vous des questions de paix internationale, de paix intérieure, de justice, de solidarité internationale. Qu'est-ce qu'il en est quand vous rencontrez des pèlerins qui viennent vous voir?
Alors, ce sont des gens qui, souvent, passent la porte un peu par hasard. Bon, il y en a qui nous connaissent au fil des ans depuis 2021, mais il y a ceux qui découvrent vraiment le parvis Sainte-Bernadette et Pax Christi, et ils sont très sensibles, en premier lieu, aux artisans de paix. Et ça les amène à réfléchir sur leurs propres actions et comment ils peuvent, eux, être aussi artisans de paix et comment ils le sont au quotidien. Et à témoigner aussi sur ce qu'il se passe dans leur famille ou plus généralement dans leur pays.
Alors, pouvez-vous nous donner concrètement quelques exemples d'actions, d'activités qui sont proposées à Lourdes par Pax Christi? Alors, vous en êtes d'ailleurs, je ne sais plus si je l'ai dit, la chargée de mission.
Oui. Exactement. Alors, on a d'abord une exposition Bayard Presse sur Laudato Si, la mise en image de l'encyclique du pape François sur l'écologie intégrale. On a des panneaux qui présentent des artisans de paix. J'ai prolongé un peu cette réflexion par des jeux et des ateliers auxquels les pèlerins peuvent participer. Et également, ça rejoint les grandes lignes de l'Évangile et aussi l'histoire de Lourdes et de Bernadette comme ambassadrice de paix par excellence.
Alors, est-ce que vous proposez aussi des temps de prière, par exemple, des temps de prière pour la paix?
Alors, effectivement, bon, hormis les messes pour la paix tous les 11 du mois, il se trouve que même si ce n'est pas un lieu de culte, le parvis Sainte-Bernadette, les gens prient d'eux-mêmes. Et quand ils arrivent, ils sont très émus souvent quand ils arrivent à la pièce consacrée justement à Bernadette. Et ça fait remonter à la surface des choses très, des émotions, des choses très personnelles.
Est-ce que vous avez eu l'occasion d'animer pour des groupes de jeunes qui viennent en pèlerinage et que vous les sensibilisez à être acteurs de paix? Comment ça se passe?
Exactement. Alors effectivement, on a des demandes souvent prévues en amont de pèlerinage, de diocèse. On intervient aussi auprès des apprentis d'Auteuil quand ils viennent. Donc c'est un public de tous les âges, on va dire.
Et vous avez développé un outil particulier pour les sensibiliser à la paix?
Alors, on a divers outils et ateliers. On a beaucoup de jeux, comme par exemple Cap ou pas Cap, qui les met en situation. Et ce sont des petits exercices auxquels ils participent volontiers, de façon très ludique. Et ça peut être fait en individuel, mais souvent, ils travaillent en groupe de 4 ou 5. Et ça amène justement des débats.
Alors justement, ici, à Lourdes, pour fêter le 80e anniversaire de Pax Christi, cette année, vous avez travaillé aussi avec la Cité Saint-Pierre, oui, le sanctuaire, pour différentes propositions. Vous avez, entre autres, une exposition qui est affichée à la Porte Saint-Joseph.
Exactement.
Qu'est-ce que vous en dites?
Alors ça, c'est très intéressant. C'est au niveau de l'arrêt du petit train, voilà, comme ça, c'est facile à repérer. Sur justement, on revient sur les œuvres de Monseigneur Rodin, directement après la guerre, qui est fondateur du Secours catholique et qui était contemporain de Monseigneur Théas, qui avait des liens de cœur, on va dire, et qui ont fait de grandes choses pour Lourdes après la guerre.
On peut dire d'ailleurs que Monseigneur Rodin, c'est lui qui a initié, qui a fondé la cité Saint-Pierre.
La cité Saint-Pierre, exactement. Et Monseigneur Théas, lui, bon, ça va être plus la basilique Saint-Pilis avec la chapelle de la paix ou de la réconciliation des peuples à l'intérieur.
Est-ce qu'il y a une animation particulière aussi qui sera faite à la cité Saint-Pierre? Il y a quelque chose?
Alors, il y a en fait trois propositions par le sanctuaire. Il y a cette exposition, il y a la visite de la cité Saint-Pierre. Et concernant Pax Christi, la marche aux sources de la paix, qui existe depuis le début du mouvement, et que j'aurai le bonheur de conduire sur demande des pèlerins.
Alors, marche sur la paix, c'est à l'intérieur même du sanctuaire. Vous pouvez nous donner les étapes et qu'est-ce qui se vit
alors,
à cette occasion?
Justement, bon, c'est une marche de prière et de chant, pour ceux qui souhaitent également chanter, et de réflexion, qui dure à peu près une heure. Et on s'arrête, alors c'est sur les 5 D de Pax Christi, le dialogue éducation à la paix, les droits de l'homme, le désarmement et la non-violence, la défense de la création, le développement solidaire. Et bon, on s'arrête évidemment à la basilique souterraine, à la chapelle Pax Christi.
Et pourquoi évidemment?
Parce que la basilique souterraine, c'est quand même, nous le devons, comme je vous disais, à Monseigneur Théas.
Il y a une chapelle particulière dans la grande basilique souterraine. Je ne sais pas si nos éditeurs l'ont déjà visitée.
Alors justement, on la découvre un peu par hasard. Elle est cachée derrière ces grands piliers en béton. Au niveau du panneau photo Saint-Jean-Paul II et face à Sainte-Hildegarde de Bingen. Et l'an dernier, symboliquement, lors du pèlerinage Pax Christi International, il y a eu la translation des reliques de saints allemands auprès des reliques de Saint-Français, sous le même hôtel dans cette chapelle Pax Christi.
Donc une belle symbole autour de vraiment de la paix entre les peuples.
Quoi. Exactement.
Et j'ai envie de dire, si des auditeurs veulent rejoindre le mouvement Pax Christi ou venir vous rencontrer au parvis Sainte-Bernadette, comment ça se passe?
Alors, ils peuvent, évidemment, ils sont invités à franchir la porte du parvis Sainte-Bernadette tous les jours. On est ouvert en gros de 10h à 18h. Après, ils peuvent communiquer par mail lourdes@paxchristi.cef.fr. Voilà, et également s'adresser au centre information qui va diffuser des flyers et des affiches sur les trois propositions autour des 80 ans de commémoration du pèlerinage du retour.
Vous avez un message peut-être particulier à souhaiter et à adresser à nos auditeurs dans l'esprit de Pax Christi?
Eh bien, je les invite à être artisans de paix au quotidien par des petites actions, à être en paix avec eux-mêmes et avec leur entourage et puis à venir nous rencontrer vraiment pour témoigner et nous dire ce qu'ils ont sur le cœur aussi.
Oui, on entend bien, Laurence, qu'à travers tout ce que vous nous avez dit sur ces deux dernières émissions sur Pax Christi, c'est que la paix, ben, elle commence souvent par des petits gestes.
Exactement.
C'est dans le quotidien de nos vies, hein, et puis ça peut être
tout à fait
la fois à votre image, comme l'écoute que vous avez quand des gens viennent discuter, poser un problème.
Accueillir déjà, ben, ça rejoint le thème aussi de l'année, qui est le thème pastoral de l'année. Sur l'Annonciation, je vous salue pleine de grâce. Donc c'est ça, il faut savoir accueillir chacun dans sa singularité et dans sa fragilité aussi. Et après, bon, ne pas outrepasser nos limites aussi. On est là aussi pour, on est au service, on est là pour accompagner et rediriger parfois les pèlerins dans des services vraiment compétents.
Oui, donc on va rappeler que toutes les personnes intéressées peuvent venir vous rencontrer au sanctuaire, donc s'intéresser à la mission de Pax Christi. On sait que plus que jamais, ben, notre monde a besoin de femmes, d'hommes, de jeunes qui croient en la paix. Merci Laurence pour votre témoignage, merci pour ce que vous nous avez aidé à faire découvrir de ce qu'est Pax Christi, et on vous dit à une prochaine fois.
À très bientôt, merci Anne.
Au revoir.
Au revoir.
Une émission à retrouver immédiatement sur le site de la radio, radioprésence.com. Dans quelques instants, la suite de nos programmes avec Catherine Albrecht qui nous fera découvrir ce qu'a bien pu écrire Gustave Flaubert sur nos belles Pyrénées.
Facile, avec ses arguments, de te faire un papa. Cécile, ma fille. dans son ventre furon, en riant aux éclats, elle me dit, allons, jubile, ce sera un garçon, et te voilà, Cécile, ma fille. Et te voilà, et me voici, moi. Moi j'ai 30 ans, toi, 6 mois. On est nez à nez, les yeux dans les yeux. Quel est le plus étonné des deux? Bien avant que je t'aie, j'en avais eu, jouant mon cœur à fin soupir, de la brune gagnée à la blonde perdue. Cécile, ma fille, et je sais que bientôt, toi aussi tu auras des idées. Et puis des idylles, des mots doux sur tes hauts et des mains sur tes bas. Cécile, ma fille, moi, je t'attendrai toute la nuit, t'entendrai rentrer sans bruit. C'est moi qui rougirai devant tes yeux plus clairs que jamais. Que toujours on te touche comme moi maintenant, comme mon souffle sur tes cils, mon baiser sur ta bouche, dans ton sommeil d'enfant. Cécile, ma fille.
Présence à Tarbes et Lourdes, 96.
Du Pays Basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance ou leurs aventures dans les sites pyrénéens fameux. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Gustave Flaubert. Avant de quitter les Pyrénées pour la Provence, l'auteur de Madame Bovary fait une escale à Luchon, d'où il grimpe au belvédère du port de Vénasque, admirer le massif de la Maladeta et l'Espagne, puis au lac d'Eau. Il passe une nuit à Saint-Bertrand-de-Comminges et visite la cathédrale des Pyrénées, qui abrite les splendides boiseries renaissance du cœur des chanoines. Il en fait dans son carnet de voyage une description détaillée avec des références historiques et culturelles qui laissent déjà entrevoir le talent du grand écrivain qu'il va devenir. Peut-être s'est-il alors souvenu de la recommandation de son père avant son départ. Vois, observe et prends des notes. Ne voyage pas en épicier ni en commis voyageur. Mais ce qui est maintenant toute l'église et ce qui la constitue réellement, c'est un immense jubé en buis qui renferme à lui seul le chœur et la nef, le prêtre et les fidèles. Ses pans hauts obscurcissent le jour qui tombe des fenêtres romanes. Son maître-autel, plein de fioritures et de bois peint, cache la relique du saint qui est reléguée derrière, comme dans la coulisse.
sur les parois latérales, à chaque médaillon, une tête de chevalier ou de matrone, souvenir antique que le libre caprice du sculpteur a jeté à profusion, plaçant l'art au milieu de la foi, le remplissant et s'en faisant un prétexte. N'est-ce pas l'Antiquité dans le roman, le XVIe siècle dans le XIe, la Renaissance dans le Moyen-Âge ? Partout, le bois est sculpté, fouillé, tressé, tant le talent est flexible, tant l'imagination se joue et rit dans les mignardes inventions. Au cul de lampe, ce sont des amours suspendus et versant des corbeilles de fleurs sur des seins de femmes qui palpitent et des ventres de tritons qui rebondissent et dont plus bas, la queue de poisson s'enlace et se roule sur la colonne. Ça et là, c'est une tête de mort. Plus loin, une face de cheval, de lion, n'importe quoi, pourvu que ce soit quelque chose. Ici, un pédagogue qui fesse un écolier pour faire rire quand on passe à côté. La luxure en femme, avec le pied fourchu et la feuille de chou. Un singe qui a mis le capuchon d'un moine. Des bateleurs qui s'exercent. Et mille choses encore sans gravité et sans pensée. Partout, de la complaisance dans les formes, de l'esprit et de l'art. Pas autre chose. Pas une tête inspirée qui prie, pas une main tendue vers le ciel. Ce n'est pas une église, c'est plutôt un boudoir. Dans un temple, toutes ces miséricordes ouvragées où l'on s'assoit comme dans un fauteuil, où les belles dames du XVIe siècle laissaient retomber leurs doigts effilés, se prélassant sur les détails païens, ces volutes, ces feuilles d'acanthe, ces têtes de mort même, qu'est-ce que tout cela veut dire ? La Renaissance est là, entière, avec enthousiasme scientifique et sa prodigalité de forme et sa décence exquise dans les nudités où elle s'étudie dans la corruption. Qu'il y a loin de là au pieux cynisme du Moyen-Âge. C'est beau, joli, charmant. On admire de la tête et non du cœur. Enthousiasme frelaté qui s'en va vite. C'est un musée, un beau morceau d'art qui fait penser à l'histoire. Un livre en bois où l'on lit une page du XVIe siècle, pas autre chose. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Gustave Flaubert. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée, intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Merci à Catherine Albrecht pour cette chronique qui nous permet de voyager à travers nos belles Pyrénées. C'est ainsi que s'achève ce Présence Midi. N'oubliez pas de bien rester au frais puisque les températures vont continuer à grimper encore cet après-midi, peut-être un petit peu moins que les jours précédents, mais tout de même, le soleil sera bien présent. N'oubliez pas l'heure de la prière sur Présence avec la méditation du chapelet quotidienne tout au long de l'année et tous les jours à 15h30 en direct de la grotte de Massabielle au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes pour toutes vos intentions. Je vous souhaite une très très belle journée, un très bon appétit si vous êtes à table. À très bientôt.
Voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons mouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour la mer a bercé mon cœur pour la vie.
Présence à Saint-Céré, 95.8.
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Ouverture du consistoire extraordinaire convoqué par le pape à quelques jours de la solennité des saints Pierre et Paul après la messe d'introduction.